bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons des intelligences, toutes les intelligences au travail, de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence collective. Aujourd'hui, nous allons parler justement de nos relations et en quoi elles sont un vecteur de réussite avec Charlotte Jeanmonod qui fait des conférences interactives en entreprise. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissance de soi en coopération avec les autres que je fais dans les séminaires d'entreprise avec des groupes d'en moyenne 150 personnes pendant 2 heures. Il suffit de pianoter Turbine à Bonheur dans votre moteur de recherche préféré et vous saurez tout, quoi. Ça reste entouré de mystères. Rejoignons tout de suite Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour Johanna.
Tu sais Charlotte, c'est sûrement le dernier podcast de la saison que je fais avec toi. Ouais.
Ah bon ?
Je me suis dit que c'était une belle manière de finir la saison, puisque j'ai pas mal de boulot là pendant un mois, puis après j'enchaîne avec mes vacances, donc je me suis dit que plutôt que de vouloir absolument faire des podcasts, parce que j'apprécie énormément de rencontrer des gens comme toi, de découvrir, et on va découvrir ce que tu fais, mais des fois, vaut mieux avoir moins à faire et sélectionner et être dans ce qu'on fait.
Alors, je suis bien d'accord avec toi et c'est un honneur de finir, d'achever la saison alors.
Donc nous allons parler des relations qui sont au cœur de nos réussites. On va surtout aussi s'intéresser à comment tu transmets ce en quoi tu crois, voilà, et de ce que tu as appris des relations et de comment on peut évoluer sur ce sujet. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ?
Ok, ça marche. Alors, en quelques mots... Moi, j'ai une expérience professionnelle qui a commencé de façon très linéaire et j'ai complètement switché il y a quelques années. J'étais du genre plutôt bonne élève. Je savais pas très bien ce que je voulais faire, mais par contre, je savais que j'étais intéressée, curieuse, passionnée par tout ce qui est artistique. Et je faisais un peu de théâtre au lycée. Puis finalement, je me suis orientée vers ce qui me plaisait. Et donc, j'ai fait des études. Je suis tombée dessus un peu par hasard de médiation culturelle et communication à la fac. Sachant que moi, j'avais fait un bac L. Et tu sais, quand tu fais un bac L, on te dit tu peux être avocat, tu peux être prof ou tu peux être psy. C'était un peu, je me souviens de ça, tu vois, je me souviens de ces trois choix-là. J'ai fait avocate, non. Prof, oui, quand j'étais gamine, ça me plaisait bien parce que ma mère était prof, mais bon, pas plus que ça. Et psy, ça me plaisait bien, en fait. Et je te le dis parce que ça a du sens par rapport à la suite. Mais j'ai pas osé le faire. J'ai pas osé parce que j'avais peur d'être trop empathique, trop fragile, trop imbibé par les problèmes des autres. Tu vois, j'avais une vision comme ça de la psychologie. Et du coup, je voulais pas m'embarquer là-dedans. J'avais peur de pas être assez forte. Et j'ai découvert un peu par hasard donc cette formation en médiation culturelle qui correspondait. Alors, quand j'avais vu le programme, je trouvais ça génial. C'était vraiment de la découverte du monde de l'art, de comment rendre l'art accessible au plus grand nombre, voilà. Et du coup, je m'embarque dans ces études-là, donc fac, hein, Paris 1, université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, super, je m'éclate pendant 4 ans, et je découvre le théâtre. Je fais du théâtre, et puis surtout, je découvre les théâtres, bah, pour le coup, parisiens, parce que moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, et donc j'ai fait mes études à Paris, et je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre. Je découvre beaucoup de les théâtres publics. Je dois dire que c'est plutôt ma famille de théâtre aujourd'hui. Donc, je découvre bah, la Comédie Française, l'Odéon, la Colline, Chaillot, le Théâtre de la Cité Internationale. Enfin, plein d'endroits que je trouve super. Je m'abonne un peu partout. Je découvre que je me sens très bien dans les salles de spectacle. Je te le dis parce que ça a aussi son importance pour la suite. Et donc, je me spécialise dans la conception et l'organisation de projets culturels et spécialité spectacle vivant. Ce qui, en fait, est une formation qui t'amène à travailler, tu vois, dans l'organisation des festivals, dans les théâtres, dans les lieux culturels en général. Et j'ai du bol parce que donc je sors de la fac, j'ai 21 ans, hein, quand je dis que c'était linéaire, c'est que j'ai pas traîné. J'avais un an d'avance dans mes études, donc je sors de mon master, j'ai 21 ans, cherche du boulot, je fais mon stage de fin d'année au Théâtre National de Chaillot aux relations publiques. Et puis, je cherche du boulot, mais je suis un peu jeune. En fait, je passe pas mal d'entretiens, mais ça marche pas trop parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai fait beaucoup de stages pendant la fac, mais ça suffit pas. Et bon, donc ça marche pas trop. Et j'ai un coup de bol, une opportunité, c'est de faire un autre stage au Théâtre du Rond-Point à Paris. Donc le théâtre du Rond-Point, c'est un endroit que je connaissais pas bien pour le coup, j'y étais pas beaucoup allée dans mon exploration théâtrale parisienne. Mais je découvre, je passe l'entretien, j'ai un énorme coup de cœur pour les personnes avec qui je passe l'entretien. Et une super mission, on me propose 6 mois de stage pour mettre en place un programme, un concours, pardon, d'écriture et de mise en scène pour les conservatoires d'art dramatique de la ville de Paris, donc pour les jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le théâtre. Et donc je suis prise à ce stage, et là je mets donc mon premier pied au théâtre du Rond-Point, on est en janvier 2005, et je vais y rester 10 ans. Et je ne le savais pas encore à l'époque, bien sûr, mais. J'y reste 10 ans. Alors, je commence comme stagiaire, comme je te l'ai dit, ouvreuse, je m'éclate. Ça doit être à peu près la période la plus heureuse de ma vie professionnelle. Ces 6 mois-là, vraiment, c'est un coup de cœur immense, humain, relationnel, professionnel, sur tous les plans. Je reste au Rond-Point à la fin de mon stage. On me propose de travailler à la billetterie. Alors, c'était pas mon ambition, mais c'était une façon de rester. Donc, je comprends qu'il faut être patient parfois. Puis j'étais jeune, comme je te le disais, j'avais le temps. Donc, je privilégie le fait d'être avec une équipe qui m'éclate et un projet et un lieu que j'aime.
Tu privilégies la relation dont on va parler d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. C'est le choix que je fais à ce moment-là. En me disant que c'est un endroit où je sens qu'on peut évoluer, tu vois. Je sens que c'est une carte à jouer. Donc, je reste. À la fin de la première année à la billetterie, je t'avoue, j'en ai un peu marre de la billetterie. Donc, je ne serais sûrement pas restée. Je commençais à chercher du boulot dans d'autres lieux. Mais, coup de bol, une collègue des relations publiques scolaires part en congé maternité. Et donc, on me propose de la remplacer. Donc là, j'intègre un service qui me plaît un peu plus déjà, donc les relations publiques. Je commence à travailler donc avec des lycées, des collèges, des établissements scolaires. Et puis, coup de bol encore, enfin coup de bol, c'est la vie hein, qui est comme ça, mais à la fin de ce remplacement de congé maternité, donc ma collègue revient, récupère son poste, mais un nouveau projet arrive, un projet assez génial, qui sera fondateur pour moi, tu verras. Et c'est un projet avec la Fondation Culture et Diversité qui vient de se créer, qui est une fondation privée hein, créée par Fimalac et qui a pour mission de permettre aux jeunes issus de zones d'éducation prioritaire d'accéder aux arts et à la culture au sens large. Donc c'est une mission de cohésion sociale et d'égalité des chances. Et le partenaire théâtre, c'est le Théâtre du Rond-Point. Et du coup, je me retrouve donc à 23 ans à créer, développer, coordonner un programme de sensibilisation au théâtre pour des jeunes en fait de lycée et de collège en banlieue, hein, en zone d'éducation prioritaire. Et voilà ma nouvelle mission qui va m'occuper pendant les 8 années qui vont suivre. Ouais. Et donc c'était un projet assez génial où j'avais un budget assez conséquent pour faire plein de trucs pour des jeunes. Je dois dire que c'était un poste un peu idéal dans un secteur qui est celui du théâtre où l'économie est quand même souvent tendue et où en relation publique ou en action culturelle, comme on dit, on a souvent peu de moyens pour faire des choses. Et on fait un peu avec des bouts de ficelle, quoi. Et là, j'ai ce job génial où j'ai de l'argent pour faire des choses. Donc c'est assez super. On crée des ateliers, des sorties, des rencontres dans des conditions assez idéales. Et pour te compléter le tableau, donc mes 3 dernières années au Théâtre du Rond-Point, donc je continue à faire la fondation, mais j'enrichis mon expérience en demandant un peu un développement de mon poste. Et je fais en plus de ça de l'événementiel. Donc je passe 30% de mon temps en gros à travailler sur la location des salles de spectacle en dehors de la programmation artistique. Donc là, je fais vraiment du pur événementiel, mais ça m'apprend beaucoup de choses et ça me servira pour la suite. Et voilà, c'était une façon, si tu veux, d'enrichir mon poste, de continuer à apprendre des choses, parce que mine de rien, j'arrivais pas trop à évoluer, en fait, dans ce lieu que j'aimais pourtant beaucoup. Et en fait, au bout de 10 ans, bah, comme tu l'as compris, moi, moi, je me suis éclatée là-bas, mais je sens qu'il y a une insuffisance, je sens qu'il y a un sentiment de pas grandir, tu vois. Entre-temps, j'ai 30 ans. Tu vois, il y a un cap des 30 ans qui est souvent un moment où on se pose des questions de sens, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, de ce qui nous ressemble, de qui on est. J'ai appris beaucoup sur moi pendant ces 10 années. Je suis rentrée là-bas, j'étais stagiaire, j'avais 21 ans. Je sens que c'est difficile pour moi de grandir, tu vois. Et un peu comme tu quittes tes parents quand tu es ado pour aller faire tes études ou pour faire ta vie, pour découvrir qui tu es, ben je sens qu'il faut que je quitte le rond-point, un peu comme un parent. qui m'a appris des choses, qui m'a fait confiance, mais qu'il faut que je quitte. Tu vois, que j'aime, mais qu'il faut que je quitte. Et donc, je passe par toutes les étapes du switch. Hein, je commence par postuler ailleurs. Je ne trouve pas de boulot ailleurs. Ça ne marche pas. Je fais un bilan de compétences qui m'apprend énormément sur moi. J'ai été accompagnée par une super femme. Je fais un voyage. Je pars marcher au Sri Lanka. Enfin, tu vois, je fais toutes les étapes pour prendre du recul. Et puis, je finis en fait par demander une rupture conventionnelle au rond-point qu'il m'accorde. Et donc, j'ai 2 ans pour mettre en place, 2 ans d'indemnité, hein, pour mettre en place mon projet d'indépendante. Parce que mon objectif à ce moment-là, du coup, c'était de changer mon rapport au travail. Vraiment, tu vois, de considérer que... Parce qu'en fait, au rond-point, ce que je t'ai pas dit, c'est que, comme souvent dans ces secteurs de passion, hein, on travaille beaucoup, beaucoup. Donc, je travaillais beaucoup les soirs, les week-ends. Le rythme de l'année était intensif et très répétitif, en fait. Et je me sentais un peu coincée dans cette façon de vivre de façon cyclique, toujours la même chose, un peu. Et donc, j'ai cette envie de changer mon rapport au travail, de mettre plus de diversité et surtout de créer une activité qui me ressemble. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui me ressemble. Pour moi, c'était ça. J'avais la conviction que plus je me rapprochais de ce que j'étais, de ce que j'aimais faire, et de mes talents, tout ça, sans trop savoir mettre de mots dessus, tu vois, mais plus j'allais être heureuse, en fait. Il y avait un truc comme ça. Et donc, je travaille là-dessus. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup abordé dans mon bilan de compétences. Et donc, je décide de me donner toutes les chances de créer mon activité en tant qu'indépendante. Influencée, inspirée par des personnes autour de moi qui faisaient un peu la même chose, tu vois, qui s'étaient lancées, etc. Et donc, mon projet, c'est celui que je fais aujourd'hui. Donc, pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, je suis conférencière. Ouais. Donc, conférencière pour des organisations publiques ou privées, mais je travaille surtout avec le secteur privé, je dois dire, surtout dans le monde de l'entreprise, mais dans des entreprises très différentes, pour le coup, qui ont des problématiques... différentes, sauf que j'interviens sur un sujet qui est celui de l'intelligence relationnelle, donc de la relation à l'autre, et ça, pour le coup, c'est un sujet assez commun à toutes les organisations, je dois dire, avec des problématiques différentes, mais la relation à l'autre reste quand même souvent un enjeu en termes de coopération, de fonctionnement et de bien-être, qui sont aujourd'hui des questions qu'on retrouve beaucoup dans le monde du travail.
Je t'interromps 2 secondes. Comment, en venant du monde du théâtre, tu t'es dit, tiens, je vais aller en entreprise?
Alors, ça ne vient pas de nulle part non plus, évidemment. Et du coup, ça m'amène à te parler des dessous de cette histoire, comment ça m'est venu. Ça vient de ma fratrie. En fait, j'ai la chance d'avoir 2 frères et 1 sœur avec qui je m'entends extrêmement bien. 2 grands frères et 1 sœur un peu plus grande que moi. Et tous les 4, on s'inspire beaucoup. Et il se trouve que mon grand frère, donc lui, est conférencier depuis plus de 15 ans. C'était son métier. Et c'est lui qui utilise l'illusion, la magie, la psycho-illusion dans ses interventions. Et donc, j'étais familière, parce qu'on en parlait beaucoup, de ses interventions en entreprise. Il me parlait beaucoup de son travail. Quelque chose qui n'était pas, en plus à l'époque, qui n'était pas très installé, qui était quand même assez nouveau, en utilisant un détour artistique qui était celui de la magie. Et donc, on en parlait beaucoup. Moi, j'étais dans mon tunnel de théâtre, là, je découvrais, j'étais passionnée, donc je voyais pas très bien quel était le lien. Et puis, à force d'en parler quand même, et puis surtout au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur ma reconversion professionnelle, en parlant avec lui, plusieurs fois, il m'a dit, écoute, Charlotte, t'es bonne à l'oral, t'aimes parler en public, t'as un petit côté show off, t'as les qualités pour faire ça en gros, et puis quand même le sujet du théâtre, c'est un sujet hyper riche en termes de messages qu'on peut faire passer dans le monde du travail. Et donc on a commencé à réfléchir là-dessus, et moi très vite, alors là pour le coup c'est arrivé assez rapidement, je me suis rendu compte que je trouvais ça, ce qui me passionnait, c'était en effet de faire des passerelles, de faire des liens entre le monde du spectacle et le monde du travail, mais pas comme ça se fait déjà. Et j'ai un petit problème avec ça, moi je veux jamais faire comme ça se fait déjà. Alors c'est chiant parce que tu réinventes jamais la poudre, hein. tu t'inspires toujours de ce qui existe.
Mais t'as besoin de sentir que tu fais quelque chose d'original.
Ouais, ça c'est marrant parce que c'est un des trucs qui me guide aussi, c'est que j'aime bien quand c'est un peu décalé et que c'est pas quelque chose qui a déjà été vu, parce que quand ça a déjà été fait, je me dis mais on le fait mieux que moi, Tu vois? Je me dis toujours, si c'est, tu vois, par exemple, théâtre en entreprise, c'est pas nouveau. Il y a plein de comédiens ou d'artistes qui se sont reconvertis ou qui font des interventions en entreprise, qui utilisent le théâtre forum, qui utilisent le théâtre d'impro.
L'improvisation aussi,
C'est
ouais.
génial, c'est hyper efficace. Tu vois? On le sait pour la prise de parole, pour plein de choses. Et donc, jamais je me suis dit, je vais me lancer là-dedans parce qu'il y a plein de gens qui le font mieux que moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux apporter là-dedans?
Alors, qu'est-ce que tu peux apporter?
Ce que je peux apporter là-dedans, c'est une vision, c'est des liens, c'est des passerelles entre ce monde du spectacle, la salle de spectacle même, je dirais, le monde de la création ou de la représentation et le monde du travail. Et en fait, ce que je trouve passionnant, moi, ce que j'ai compris en allant beaucoup au théâtre et en travaillant dans ce milieu, c'est que le théâtre, en plus d'être cet outil dont on vient de parler, génial pour prendre la parole, etc., c'est aussi un super moyen de parler de coopération et de relations humaines. Parce que quand tu regardes bien, que ce soit des artistes qui créent un spectacle ensemble, donc qui réunissent des corps de métiers hyper différents pour ensemble aboutir à un même objet qui va avoir lieu à un moment donné sur une scène devant des gens, ou que ce soit dans une salle de spectacle où des spectateurs qui ne se connaissent pas se réunissent à une heure donnée, à un jour donné, qui sont assis tous dans la même direction pour jouer au même jeu avec des comédiens qu'ils ne connaissent pas, et tout le monde va faire semblant que ce type sur scène qui s'appelle Robert, c'est Roméo, et Justine, c'est Juliette, et qu'on est à Vérone, et que quand ils vont mourir, on va vraiment être triste, tu vois? Et on va vivre ça tous ensemble pendant un temps donné, et après on va en parler. Et ben, mine de rien, c'est quand même un acte de coopération qui est hyper puissant. Et donc, moi, mon job, c'est de décrypter tous ces mécanismes relationnels qui ont lieu dans une salle de spectacle ou dans des moments de création au sein des artistes, et de voir comment on peut les utiliser, comment on peut les transposer dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, dans les choses du quotidien.
Ah oui, d'accord. Donc tu t'intéresses au processus créatif au sein des théâtres ou à la relation entre le public et les gens
Exactement.
sur scène. Donc tu prends tous ces exemples pour illustrer des choses qu'on peut rencontrer nous dans notre vie.
Exactement.
D'accord. Tu pourrais nous donner un exemple pour que je comprenne un peu mieux?
Ouais. Alors, je peux te donner un exemple que j'aborde dans ma conférence, par exemple. Donc, c'est un sujet autour de la communication, comment on peut mieux communiquer les uns avec les autres. Et donc, pour parler de ça, je vais raconter une histoire. En fait, je fais beaucoup de storytelling dans mes conférences. Donc, c'est des conférences interactives dans le sens où il y a du storytelling, mais il y a aussi des moments d'expérience où ils sont amenés à écrire. Je demande au public d'écrire des choses ou de voter. Enfin, il y a des énigmes, il y a des moments de jeu, il y a des choses comme ça. Mais les moments de storytelling, donc là par exemple, je vais parler de Peter Brook, qui est un grand metteur en scène anglais. Petit aparté, qu'on connaisse ou pas les personnes dont je parle, ça n'a aucune importance. Enfin, je ne parle pas de Peter Brook pour qu'on retienne qui est Peter Brook, je parle de Peter Brook parce qu'il a vécu un truc de dingue. Et donc, je parle de Peter Brook qui un jour a créé un spectacle à partir d'une œuvre littéraire qu'il a découverte qui s'appelle le Mahabharata. Et le Mahabharata, c'est juste le plus grand poème de la littérature au monde. C'est un texte indien. Et il décide de monter ce spectacle parce qu'il a un gros coup de cœur sur ce texte. Sauf que ce texte, il fait 12 000 pages, il fait 250 000 vers, c'est extrêmement long. Et donc, ça lui prend 10 ans de travail et des allers-retours en Inde pendant 10 ans et un travail de dingue pour adapter le texte à la scène, etc. Et au bout de 10 ans, il crée un spectacle, sauf que son spectacle, il dure 9 heures. Voilà, c'est le problème, c'est des textes un peu longs. Sauf qu'il est au max, il a bossé au maximum là-dessus. Et donc la question que je pose, c'est comment on présente un spectacle de 9 heures? Et donc je raconte que le spectacle est programmé au Festival d'Avignon, un des plus grands festivals au monde, il est programmé à 22 heures, à la nuit qui tombe. Et donc le spectacle dure 9 heures et les spectateurs sont là.
S'endorme.
Et voilà, les 1 000 spectateurs sont là. Je ne leur cache pas qu'il y en a certains qui s'endorment, en effet. Et la question que je pose, c'est... qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à la fin des 9 heures, il y a une standing ovation d'une demi-heure dans la salle. Et la question que je pose, c'est comment il a fait quoi? En gros, il a un spectacle de 9 heures. Il le fait passer à 1 000 personnes qui sont emballées. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, à partir de là, on commence à décrypter. Et bien sûr, on comprend que il avait beaucoup travaillé, qu'il avait un super spectacle, on suppose, parce que moi je ne l'ai pas vu, c'était en 85, mais on se pose la question. Et donc petit à petit, je vais leur démontrer qu'en fait, ce sur quoi il a bossé, c'est l'expérience, c'est les conditions de réceptivité. Et donc à partir de là, conditions de réceptivité, ça dépend de quoi? Ça dépend de deux grandes dimensions, le temps et l'espace. Et donc, je vais leur montrer comment il a travaillé sur l'espace. Où est-ce qu'il a présenté son spectacle? Il n'a pas présenté n'importe où dans une salle lambda, il l'a présenté dans un lieu qu'il a aménagé. Donc, je vais montrer tous les travaux qu'il a fait pour faire en sorte que le public puisse entendre, voir.
Il ressemble à quoi, ce lieu?
Pardon?
Il ressemblait à quoi, ce lieu?
C'était une grande carrière de calcaire, tu sais, comme on peut voir dans le sud de la France, donc à 15 km d'Avignon. Donc un lieu isolé, tu ne pouvais pas y accéder facilement. C'était un lieu abandonné depuis 10 ans, qui n'avait pas été exploité. Voilà, il ne s'y passait rien depuis longtemps. Et lui, il a eu un gros coup de cœur sur ce lieu. Et il a fait des travaux d'aménagement, qui ont été entièrement financés d'ailleurs par le mec qui appartenait à la carrière. Et donc, il a créé vraiment les conditions possibles. Il a monté des gradins, il a assaini l'espace, il a fait en sorte que l'acoustique soit bonne. Donc, il a érigé des murs de plusieurs mètres de haut pour faire en sorte que l'acoustique soit bonne. Enfin, tout a été pensé pour que l'expérience puisse être entendue, vue, vécue au maximum. Et ensuite, il y a la dimension du temps. Qui est extrêmement importante, surtout avec un spectacle de 9 heures. Et donc, je raconte qu'il n'a rien laissé au hasard. Évidemment, tout le monde était au courant de la durée du spectacle à l'avance, mais aussi de combien de parties faisait le spectacle, combien de temps elle durait, quand avaient lieu les pauses, combien de temps elle durait, etc. Qu'il y avait des horaires de navettes pour venir et repartir. Tout était annoncé, en fait, et ce n'était pas laissé au hasard. Et donc, on redécouvre comme ça, si tu veux, la relativité du temps et à quel point il est important d'être clair et visible sur toutes les questions de temps quand tu communiques avec quelqu'un. Et après avoir raconté toute cette histoire que je t'ai faite un peu rapidement, arrive le moment de débrief, en fait, où je leur dis, et vous aussi, en fait, vous vous retrouvez dans la même situation que Peter Brook. À chaque fois que vous avez un message à faire passer, à chaque fois que vous êtes en réunion, en rendez-vous, en entretien, que sais-je, comment vous pouvez faire attention à ces deux conditions de réceptivité, à ce temps et à cet espace? Et là, je pose des questions. Là, c'est le moment où je fais des liens avec leur situation à eux. Donc, c'est là où, pour moi, il est très important de travailler en amont avec les clients auxquels je m'adresse pour avoir des infos sur les difficultés que rencontre le public, à qui je vais m'adresser, etc. J'utilise leur jargon à eux, bien sûr. Et puis, et là, je crée des espaces où eux vont se poser des questions. Mais à aucun moment, je donne de solutions, tu vois. C'est là où je ne suis pas formatrice, où je ne suis pas coach, où je suis conférencière. C'est pour ça que je parle de conférences inspirantes et interactives. C'est-à-dire, je les amène à se poser des questions, à faire des liens. Le boulot, c'est eux qui vont le faire, finalement. Tu vois?
Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai appris par expérience, quand je fais mes turbines, ça fonctionne beaucoup mieux quand, dès le départ, j'explique quels vont être les temps, les bénéfices, l'objectif, vraiment, mais de dire quelles vont être les séquences. Et que ça améliore en effet la perception du public, et parce que on en a besoin aussi, je suppose. Comment tu expliques ça
Il y a plein de raisons, mais ce qui est vrai, c'est que le temps est extrêmement relatif. Ça, on l'a tous vécu. Hein, 5 minutes, ça passe pas de la même manière quand t'es dans la queue d'un supermarché et que tu sais pas pour combien de temps t'en as. Que quand on te dit il y en a pour 5 minutes et il y en a pour 5 minutes, tu vois, enfin c'est très différent. Même les 2 heures d'attente dans la queue d'un manège chez Euro Disney passent pas de la même manière quand on t'annonce qu'elles vont durer 2 heures, tu vois. Enfin, ce qui est sûr, c'est que quand on sait combien de temps vont durer les choses, on les vit beaucoup mieux, on les subit pas parce qu'on se prépare, etc. C'est ce qui fait qu'on peut voir un spectacle de 9 heures sans devenir dingue, parce qu'on le sait.
Je t'assure. Alors que quand le train est en retard de 5 minutes,
ça nous rend dingue. Non, mais c'est vrai. Et ça, on l'a tous vécu. Donc, tu vois, là, je fais appel à du vécu, vraiment. Après, en termes philosophiques et scientifiques, je peux pas, moi, t'expliquer ce qui se passe réellement. Ce que je sais, pour le coup, parce qu'en psychologie positive, le rapport au temps est hyper important, en fait. C'est un des quelques piliers, en fait, qui participent au sentiment de bonheur et de bien-être. C'est la gestion du temps dans nos vies. C'est comment on gère le temps. Et c'est souvent une des entrées pour comprendre, pour remettre un peu d'ordre en fait, et reprendre le contrôle un petit peu, tu vois, des choses quand on se sent dépassé, c'est de passer par ça. Donc c'est une dimension hyper importante, le temps, qui pour le coup est très 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 exploitée dans le monde du théâtre, et qui du coup, tu vois, on peut faire des passerelles assez claires après dans le monde du travail, dans l'organisation du travail. Donc c'est un bon exemple.
Comment t'as fait pour travailler je sais pas, tu as une conférence ou plusieurs? Comment ça fonctionne?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, au début, j'ai réuni plein d'anecdotes que je trouvais géniales, tu vois, de cet artiste que j'avais rencontré, côtoyé, ou juste lu, ou etc. Et je me suis dit, alors voilà, cette anecdote, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, elle raconte ça, ça raconte ça. Et j'avais commencé par un blog, en fait. Et puis, j'étais pas très satisfaite, je trouvais ça un peu superficiel et tout. Et donc, du coup, je me suis focalisée sur quelques histoires que je trouvais plus fortes que d'autres, que j'ai gardées dans ma conférence actuelle. Donc, aujourd'hui, il y a 4 parties dans la conférence. Il y a cette première avec Peter Brook, dont je vais parler rapidement, sur la communication. Il y a une autre partie sur la contagion des émotions. Il y a une autre partie sur la gestion des vulnérabilités et une dernière sur l'importance de la surprise dans la relation.
D'ailleurs, tu parles de ça dans la présentation. Alors, ça s'appelle Joue-la comme William.
Ouais.
Ça vient du titre Joue-la comme Beckham ou
ouais. Oui, ouais, un peu, même si ce n'est pas le film de ma vie. Mais en fait, l'idée, c'était de faire une référence à Shakespeare avec William. Ouais. Et à une œuvre plutôt du cinéma plutôt populaire, tu vois, enfin, que tout le monde connaît un peu dans l'imaginaire collectif. Joue-la comme Beckham, ça nous parle, même si on n'a pas vu le film. Mais c'est plutôt un film grand public, tu vois. Et donc, j'avais envie d'associer un personnage plutôt du monde du théâtre, qui est souvent considéré comme un monde élitiste, et une référence plus populaire. Parce que c'est ça aussi que je fais. C'est-à-dire rendre accessible des concepts qui peuvent paraître un peu loin, un monde qui peut paraître un peu éloigné de nous ou quoi, et en fait de le rapprocher de nos préoccupations quotidiennes.
Donc dans la présentation de Joue-le comme William, tu parles de la force du détour. Qu'est-ce que tu entends par là?
Ben, c'est exactement cette histoire de passer par le monde du spectacle vivant. C'est-à-dire que cette histoire de temps, de gestion du temps, de gestion de l'espace, de contagion des émotions, je pourrais t'en parler de façon théorique, je pourrais te dire ce que j'ai appris là-dessus pendant des heures, mais peut-être tu en retiendras 10% de ce que je vais te dire. En revanche, si je te raconte ça en te racontant une histoire qui a priori n'a rien à voir, en me disant, ah bah, tiens, je vais te parler de Peter Brook, je vais te parler de la cour d'honneur, du palais des papes et de ce qui s'est passé, je vais te parler de Jean Villard, je vais te parler de telle personne que tu connais pas forcément, qui t'intéresse pas forcément d'ailleurs, mais la façon dont je vais t'en parler, ça va être captivant parce que je vais travailler là-dessus. Je vais travailler beaucoup sur l'attention et sur comment faire en sorte que tu me lâches pas et que ça t'intéresse. Je vais passer par un monde différent et puis à un moment, tac, je vais revenir à toi. Et je vais te dire, mais en fait, tu vis la même chose tous les jours. Ça te concerne aussi, t'es dans la même situation que cette personne. Et qui vient de vivre un truc un peu extraordinaire. Alors, moi, je te le raconte en mode extraordinaire, et peut-être ton quotidien est plus ordinaire, mais en fait, c'est la même chose, c'est le même mécanisme. Et du coup, tu vas t'en souvenir. Tu vois, la force du détour, c'est ça. C'est comment ça capte l'attention et ça s'inscrit dans les mémoires. Parce que le détour crée de la surprise. Et la surprise, c'est une des émotions de base chez l'être humain. Mais c'est la seule émotion qui est ambivalente, qui est à la fois positive ou négative. Et quand elle est positive, même quand elle est négative d'ailleurs, son utilité en fait à la surprise, c'est qu'elle marque les mémoires, elle capte ton attention parce qu'elle nous permet de nous protéger de ce qui dysfonctionne, tu vois, dans notre environnement, de ce qui peut être dangereux, hein, au niveau primaire, c'est ça l'utilité de la surprise. Et donc le détour, c'est une surprise qui va capter ton attention et qui va faire en sorte que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit.
Tu fais un lien, donc tu introduis des éléments de psychologie positive dans ton spectacle. Comment on fait le lien entre psychologie positive et le théâtre et toutes ces histoires, en fin de compte, que tu racontes?
Alors, c'est une très bonne question parce que c'est pas quelque chose que j'ai préparé ou conscientisé. Tu vois, ça s'est un peu présenté comme ça au fur et à mesure. Au début, il y avait le théâtre, les histoires, ça c'est certain. Et puis après, en fait, en ayant commencé à construire cette conférence, je me suis rendu compte que en fait, il y a un truc qui était important aussi dans la crédibilité de ce que je crée, de ce que j'apportais, c'est que ce soit quand même référencé et qu'il y ait des références à des expériences et à des études scientifiques. Tu vois, je voulais pas sortir des idées de ma tête ou de mon chapeau. C'était important aussi que ce soit, il y ait un corollaire scientifique. Et en fait, comme je te le disais tout à l'heure dans mon parcours, moi, j'ai toujours été très attirée par la psychologie en général. Quand j'étais ado déjà pour mon orientation, et puis après, moi il faut savoir que j'ai vu des psys pendant longtemps, parce que mon chemin personnel a fait que j'ai eu besoin à un moment de voir un psy, et en fait quand j'ai mis le pied dedans, c'est un peu comme Obélix, tu vois, je n'en suis pas trop ressortie, j'ai eu envie de continuer ce travail, parce que j'ai trouvé ça passionnant en fait, et je pense que j'ai vu des psys pendant 10 ans, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, de comprendre comment je fonctionnais, etc. C'était très égocentré aussi, mais j'ai appris beaucoup beaucoup sur les relations humaines finalement en allant voir des psys pour moi, tu vois. Et donc j'ai fait ce travail-là. Et puis quand j'ai fait ma reconversion, donc ma conférence, etc., je me suis dit, bah tiens, c'est aussi le moment de me reconnecter à ça. Donc j'avais regardé un peu les formations et tout. Mais bon, finalement, je me suis dit, je vais utiliser la psychologie pour étayer tous ces sujets relationnels dont je parle, tu vois, pour les illustrer aussi. Et j'ai découvert la psychologie positive. En fait, dans mon switch, j'ai lu beaucoup, beaucoup de bouquins. Tu sais, c'est des moments où, comme tu te poses beaucoup de questions, tu regardes beaucoup de vidéos, tu lis beaucoup de bouquins, tu t'intéresses à plein de trucs, tu explores, quoi. Et il y a un bouquin qui a été fondateur, en fait, pour moi, qui est un bouquin de psychologie positive. C'est d'ailleurs mon frère qui me l'avait, tu vois, toujours lui, qui me l'avait offert, qui m'avait dit « Lis ça, ça va te plaire ». Et c'est un bouquin qui s'appelle... en français, comment devenir un optimiste contagieux. Et c'est un mec qui s'appelle Sean Accor qui a écrit ça. En anglais, c'est The Happiness Advantage. Et ça a été un coup de cœur. Ce bouquin a, franchement, il y en a quelques-uns des bouquins comme ça dans ta vie où tu peux dire qu'ils ont changé ta vie. Bah, celui-là en fait partie. Vraiment, il a créé chez moi une nouvelle façon de voir les choses. Et c'était de la psychologie positive. Je ne savais pas à l'époque, tu vois, je ne mettais pas de mots là-dessus, mais c'était ça. Et il se trouve que voilà, là récemment, quand j'ai amorcé cette reconversion, j'ai commencé à regarder un peu les formations en psychologie positive et j'en ai commencé une cette année, donc là je suis en plein dedans. Voilà.
Ah oui, tu suis quelle formation ?
Alors c'est un organisme qui s'appelle Positran.
C'est Ilona Buñuel.
Exactement, Ilona Buñuel. Voilà, c'est elle qui fait la formation. Donc c'est D'accord. ça que je suis en ce moment.
Super, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je l'ai interviewé mais en vidéo il y a quelques années, ouais.
Bah ouais, elle est très très intéressante parce que justement elle a une approche scientifique et en même temps elle a une façon de l'adapter au monde réel, tu vois, au monde de l'entreprise, au monde de tous les jours qui est très pertinente.
Je vais essayer de revenir sur le sujet qu'on s'était posé, les relations au cœur de nos réussites. Qu'est-ce que t'amènes de particulier ou quel est ton regard là-dessus spécifiquement?
Ce sujet de l'intelligence relationnelle, il s'est imposé à moi pour plein de raisons. Je pense que c'est jamais un hasard hein, quand tu as un sujet comme ça qui revient tout le temps. Il y a un truc déjà, c'est que tu l'auras compris, j'ai une expérience professionnelle au rond-point qui était extraordinaire et que ça tenait beaucoup à la qualité des relations que j'avais avec mes collègues et avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Ça a été une expérience fondatrice pour moi là-dessus. Mais pourtant, tu vois, j'en suis partie quand même. Et je pense qu'il y avait aussi là-dedans l'idée que je ne me reconnaissais peut-être pas toujours aussi dans certaines valeurs du lieu ou certaines façons dont c'était managé, par exemple. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les organisations. C'est une forme de déception, de lassitude, de malaise, hein, voire de mal-être parfois, qui peuvent naître d'une façon... alors, on met beaucoup la faute sur le management en disant « c'est mal managé, il n'y a pas de management ». Tu vois, on met souvent la faute là-dessus. Je pense, moi, mon approche, c'est que oui, évidemment, le management, c'est hyper important. Et c'est souvent le problème dans ces lieux culturels et artistiques que moi, j'ai côtoyés, c'est que ces théâtres sont géniaux. Ils ont des projets géniaux, mais souvent, ça manque un peu de management. Et d'ailleurs, le mot « management » n'est jamais utilisé dans les théâtres.
Ah, ben non.
C'est un peu un gros mot. Donc, c'est aussi révélateur, tu vois, de quelque chose. En revanche, moi, ma conviction par rapport à la relation dans le monde du travail et comme vecteur de réussite, c'est que c'est quand même une responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité individuelle à une réussite, à un comportement collectif. C'est difficile d'entendre ça parce que souvent, on se dit « mais j'y peux rien, mon boss, il est comme ça, ou on m'empêche de faire ça, on ne m'autorise pas à faire ça ». Sauf que moi, ce que je crois, c'est qu'on a quand même tous une petite marge d'action. Je suis convaincue qu'on a tous des petites marges pour agir et pour agir sur la qualité des relations. Parce qu'on a tendance à sous-estimer les petites choses, les petits détails. Tu vois, on a parlé du temps tout à l'heure, mais c'est juste un exemple. Il y a plein de façons de faire attention à nos relations au quotidien, de prendre soin de nos relations. Et en fait, il y a un TED qui a été hyper révélateur pour moi aussi. Tu sais, il y en a certains comme ça, des TED où tu fais « mais ça y est, c'est exactement ça que je pense », tu vois. Il a mis des mots dessus. Et ben, il y en a un comme ça, qui est de Robert Waldinger, qui est un Américain, qui est un des directeurs la plus grande étude d'Harvard sur le développement adulte, qui a été jamais réalisée, qui est une étude qui a été faite sur 75 ans. Sur ce qui rend...
C'est Gérard Vaillant qui a mené cette étude.
Alors, je ne connais pas les différents noms des...
Je ne sais pas qui est ce Waldinger.
Alors, Waldinger, c'est...
Il s'attribue le nom de Gérard Vaillant,
Alors, peut-être... Du coup, tu sais, c'est cette étude, hein, je pense que c'est la même.
Oui, longitudinale, où ils ont pris des gens de Harvard, lesquels, dans une des promos, il y avait Kennedy.
Ouais, exactement, c'est ça, c'est celle-là. Mm. Il n'y en a pas 40, hein, c'est celle-là. Et Robert Waldinger, c'est celui qui a fait le TED.
C'est normal, monsieur Vaillant, je crois qu'il est mort.
Ben oui, parce que Robert, c'est le quatrième directeur de cette étude. Donc forcément, c'est pas lui
Ah,
qui l'a
voilà.
créé, c'est lui qui l'a
Oui.
récupéré au bout d'un moment, parce que forcément, il y a eu plusieurs directeurs qui se sont enchaînés. Et dans cette, voilà, dans ce TED, il raconte cette étude géniale. Et voilà, il raconte que les résultats, en fait, de ce qu'ils ont découvert pendant toutes ces années, c'est que les bonnes relations nous rendent heureux et en meilleure santé. Et qu'en fait, c'est ça qui rend l'être humain heureux, si on peut parler de bonheur, etc. C'est de bonnes relations, des relations de qualité. Et ça m'a vachement parlé. Parce que c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que on a tous des ambitions différentes, on a tous des choses qui nous rendent, voilà, des plaisirs différents, etc. Mais par contre, le sentiment de bien-être, de bonheur, il est quand même lié à la connexion aux autres. Et ma conviction aussi, c'est que, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance beaucoup à retenir dans nos sociétés modernes cet individualisme propre à l'être humain. On parle beaucoup de la loi du plus fort, de la concurrence, tu vois, de ce qui fait qu'on a réussi à survivre, à évoluer pendant ces milliers d'années. Sauf qu'on oublie beaucoup de parler, en fait, de l'autre pendant, de l'homme, de sa nature et de sa nature profonde, qui est aussi quand même sa capacité d'empathie, de solidarité, de coopération, et que c'est ça aussi qui lui a permis d'évoluer, de survivre pendant toutes ces années, tu vois. Et je trouve qu'on a tendance à focaliser sur le côté chacun pour soi, le plus fort, il faut survivre. Et on oublie que ce qui marche aussi, c'est quand même quand on est ensemble. Et tu vois. Et donc c'est cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est en ça que je trouve que les relations qu'on entretient aux autres sont des leviers de réussite très puissants.
Ouais. Sa conclusion, je me rappelle, c'était Happiness is Love, et c'est pas du tout Gérard Vaillant, c'est Georges Vaillant. Et il n'est pas du tout français, mais je pense que c'est lui qui a. Il faudrait que je vérifie, tu me fais douter avec. Mais je vois de qui tu parles là, j'ai vu passer ce TED sur
Ouais,
qu'est-ce qu'une vie réussie ou
oui,
quelque
c'est
chose comme
ça,
ça.
exactement. Celui-là.
Avant qu'on passe au questionnaire, j'ai vu que déjà que tu continues à avoir une activité avec les jeunes. Et il y a aussi, alors c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui m'a parlé de Revel, mais quelqu'un
Oui.
m'a contacté et faisait partie de Revel ou m'a parlé de Revel. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est quoi Revel? Revel, c'est une asso, en effet, avec laquelle je travaille depuis que je suis partie du rond-point, depuis 3 ans. Et c'est une asso qui accompagne des jeunes femmes qui ont entre 15 et 20 ans et qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle, comme beaucoup de jeunes entre 15 et 20 ans, mais voilà, qui sont issues de milieux peut-être un peu moins favorisés que d'autres. Et c'est une asso donc, qui est créée par Atina Marmora, qui organise des parcours de 5 jours pendant les vacances scolaires, et on accompagne des promos de 40 jeunes filles sur ces questions d'orientation. Sauf que la question de l'orientation est un peu, si tu veux, un prétexte pour en fait parler de la connaissance de soi, de la découverte de soi, des talents, des forces. Et au lieu de leur dire, vous allez chercher un métier, on leur dit, vous allez plutôt vous interroger sur qui vous êtes, c'est quoi les conditions de travail qui vous conviennent, c'est quoi les environnements qui vous plaisent, qu'est-ce que vous aimez faire. Et donc, pour elles, c'est quand même un changement de paradigme. Et on les accompagne comme ça, avec une équipe de coach pendant 5 jours. Et c'est un parcours que j'aime beaucoup parce que déjà, voilà, je trouve ça hyper important de travailler là-dessus. Et ensuite, parce que moi, ça me permet de garder un contact avec ce public jeune avec lequel je travaillais quand j'étais au rond-point, et avec lequel j'apprends énormément, en fait.
Ok, donc ça c'est Revel et Passeport à venir?
Alors, Passeport Avenir, c'est un peu dans la même philosophie que Revel. Là, je travaille moins avec eux. J'ai travaillé avec eux surtout l'année dernière, mais c'était aussi dans la collaboration avec Atina Marmora. Là, l'idée avec Passeport Avenir, c'était d'intervenir dans des entreprises, mais pour former des personnes, des salariés qui étaient volontaires pour animer des ateliers collectifs en lycée, parce que Passeport Avenir avait développé tout un programme comme ça d'intervention de professionnels dans les lycées qui faisaient des ateliers sur l'orientation, tout ça. Et moi, je les formais sur la posture de formateur. Et ça me plaisait beaucoup, parce qu'en gros, c'était comment on s'adresse à un public jeune, alors que vous n'êtes ni leur prof, ni leur père, ni leur mère, mais que vous êtes quand même une forme d'autorité pour eux. Et donc, c'est quoi la posture pour leur permettre de prendre ce qu'il y a de mieux dans votre parcours, dans ce que vous avez à leur transmettre. Et ça c'était vachement intéressant. Donc tu vois, j'ai quand même aussi une activité de formatrice, facilitatrice. Là, je vais rejoindre aussi une équipe Switch Collective qui est une start-up qui existe depuis 2 ans et qui s'adresse à des adultes qui veulent changer, switcher dans leur vie professionnelle. Et là, je vais aussi animer donc, des moments collectifs comme ça avec des promos de 40. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur aussi, c'est de continuer. Tu vois, j'ai la conférence qui sont des moments inspirants pour créer des déclics comportementaux. Mais j'ai aussi des moments de formation, de facilitation, je ne sais pas trop comment appeler ça, où j'anime en fait des moments collectifs et où ça me plaît beaucoup aussi.
Ça me paraît tellement capital t'en parler au début où t'as fait elle, ça y est, en ouais. gros, t'as 3 voies possibles. Alors que c'est capital quand même de trouver quelque chose qui nous correspond, une activité qui nous fait grandir, dans laquelle on s'épanouit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de souffrance au travail. C'est aussi parce que les gens se connaissent pas vraiment, savent pas vraiment quels sont leurs talents, où ils sont bons et où ils peuvent l'appliquer, et où ils ont une vraie valeur ajoutée. Mmh. Et c'est capital. Moi aussi, je fais partie de Revel.
Ouais, mais alors tu vois, pour le coup, ce que tu dis, c'est exactement le travail de Switch Collective. C'est de dire, switcher, ça veut pas dire juste changer, ça veut dire trouver ce qui vous correspond. C'est-à-dire trouver l'adéquation entre ce que vous allez faire de vos journées en termes de travail, d'activité en fait, et qui vous êtes. Et donc le parcours Switch, c'est exactement ça. C'est un travail de recherche sur soi, d'exercice, d'intelligence collective, où on apprend à mieux se connaître pour mieux choisir ce qu'on va faire de nos journées, parce que c'est aussi ça la clé de la réussite, tu vois. C'est de se connaître soi. La relation à l'autre, elle commence par la relation à soi, tu vois, pour revenir à notre sujet. C'est mieux tu te connais toi-même, et plus tu peux être OK avec les autres, quoi.
Complètement. Mais je trouve ça formidable qu'il y ait autant de collectifs, je dirais, qui se créent et qui se spécialisent vraiment là-dedans. Quand tu me dis les jeunes femmes entre 15 et 20 ans, voilà, elles ont vraiment une mission qui est très spécifique, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est rassurant. Ça donne de l'espoir.
Non, mais ça évolue, donc c'est, ouais. c'est génial. Et il y a beaucoup à faire dans l'éducation. Et surtout, jeune, parce que d'une certaine manière, après, une fois qu'on est dans une situation, on peut évoluer, c'est sûr, et on peut apprendre toujours. Mais à cette époque-là de la vie, c'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait pour construire là-dessus et gagner en confiance et plutôt que d'avoir à reconstruire sa confiance.
Alors, on est bien d'accord. Alors que c'est justement une période où t'entends des choses qui à l'inverse peuvent te détruire aussi, quoi, ou te mettre sur une mauvaise direction. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réinventer pour que ça fonctionne un peu mieux. C'est vrai.
Je te propose de passer au questionnaire.
Ouais, ça marche.
La première question, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie quelque chose qui pourrait être vu comme un échec et qui t'a particulièrement fait progresser ?
Alors oui, alors cette question, elle, c'est marrant parce que je la comprends, mais j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'elle me fait flipper. en fait, c'est vrai que ce terme d'échec, il est compliqué parce qu'on y met tout de suite des grandes choses, tu vois, derrière le mot échec. Et je réfléchissais et je veux dire, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu d'échec, c'est pas vrai. En fait, ce que j'ai eu beaucoup, c'est des sentiments d'échec, tu vois ?
Oui.
Et ça, j'ai mille exemples. Mais l'échec, il y en a un quand même que j'ai trouvé, hein, dont je vais te parler. C'est que quand je voulais partir du rond-point, là, donc j'ai fait mon bilan de compétences, je suis partie au Sri Lanka pour marcher. Et au Sri Lanka, je reçois un mail d'une nana, d'une copine, qui quitte son poste. Et son poste, c'était le poste dont je rêvais, dont j'avais parlé pendant mon bilan de compétences. Et j'avais dit, ouais, cette fille, elle fait vraiment le boulot de mes rêves. En gros, elle travaillait pour les TEDx Paris. Et elle coachait les intervenantes sur scène, tu vois, pour qu'ils s'expriment bien à l'oral.
Mais pourquoi ils sont payés ?
Bah elle,
c'est volontaire.
Oui. Mais en fait là, c'était une agence ça passait par une agence qui.
Tiens, c'est étonnant.
Ouais. C'était un peu différent et c'était un système qui permettait justement de pouvoir coacher les. Mais l'agence ne faisait pas que TEDx, tu vois, ils faisaient plein
d'autres choses. Non, mais je connais des agences qui font ça. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai été coachée par des agences.
Ah, ok, d'accord. Ok, donc elle bossait pour cette agence en fait. Elle bossait pas pour TEDx Paris, elle bossait pour cette agence.
D'accord.
Voilà. Et son boulot, c'était quand même de coacher des gens passionnants, tu vois, qui faisaient plein de métiers différents. Voilà. Et moi, je trouvais ça génial. Et donc, je pars au bout du monde. En voulant quitter le rond-point, et je reçois ce mail qui me dit « Je quitte mon boulot, j'ai pensé à toi pour me remplacer. » Je dis « Ah, mais c'est génial !» Donc, je rentre, je prends rendez-vous, je passe mon entretien, et j'attends. Et en fait, ils ne me répondent pas. Pendant des mois, je n'ai pas de réponse. Et moi, pendant ce temps, j'ai quand même envie de partir de rond-point, et plus que jamais, je me dis « Les as sont alignés, ce job, c'est le job de mes rêves, je vais partir. » Sauf que rien ne se concrétise, et au final, je ne l'aurai pas. Et du coup, je le vis assez mal. Sauf que ce qui est super, c'est que, si tu veux, j'ai eu la réponse très tardivement. J'avais déjà demandé ma rupture conventionnelle au rond-point. Et donc, j'avais préparé un plan B quand même. Je m'étais dit, OK, si j'ai pas ça, c'est pas grave. Je me lance, je fais ma conférence. Et en fait, j'ai été déçue de pas l'avoir, mais ça m'a quand même permis de demander ma rupture conventionnelle, de partir du rond-point et de augmenter mon projet, tu vois.
Oui, c'est un révélateur aussi que ça y est, quoi.
Ouais.
T'es prêt à passer le pas et que c'est pas ce job-là forcément,
voilà.
Mais que...
Ça a été le déclic, mais ça a pas été ça mon boulot finalement, tu vois.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement appris ?
Alors, c'est vrai que j'ai testé pas mal de trucs, j'ai découvert pas mal d'outils, mais je vais dire l'hypnose. En fait, j'ai eu l'occasion, parmi mes différentes thérapies, de faire une thérapie brève par l'hypnose pour régler un problème que j'avais. Et j'ai été hyper réceptive à l'hypnose, figure-toi, je l'ignore. Et c'était une expérience hyper troublante pour moi, très 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 forte.
C'est-à-dire
Au point que ça m'empêchait de dormir après parce que mon cerveau était hyper sollicité par cette expérience et ça m'a permis de comprendre et d'apprendre des choses sur moi et d'être vraiment sur un rapport sensoriel que j'avais jamais expérimenté avant. Moi, je suis pas vachement dans le corps, je suis plutôt cérébrale et du coup, ça m'a demandé un lâcher prise et ça m'a fait découvrir en fait, tu vois, une version de moi, de mon inconscient qui m'a beaucoup troublée. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très très puissant. Est très efficace pour tout ce qui est blocage, tu vois, troubles, tout ce qui est peur. Bah, là d'ailleurs, je vais bientôt accoucher et j'ai pris rendez-vous avec une hypnotiseuse pour travailler là-dessus. Parce que je pense que ça va m'aider.
Ok, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Je vais rester un peu dans ce que je connais, hein, mais... Je vais travailler sur l'humain, sur la relation, en fait, plutôt que de vouloir, de chercher à être très, à très, comment dire, plus que dans les tâches, être dans l'humain, quoi. Je dirais que c'est oser être dans ces ressorts, ces leviers relationnels qui sont, les émotions, la reconnaissance des émotions, en parler, le donner... ces leviers de communication, de cadre, oser permettre à l'autre de rater, de prendre des risques, de gérer ses vulnérabilités, oser montrer ses propres difficultés. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'humain, tu vois, du relationnel pur, je trouve que c'est ça, être un bon manager, plus que donner des directives claires ou gérer, comment dire. Être dans des préoccupations d'organisation, de résultats, tu vois, je trouve que c'est devrait être beaucoup plus de l'ordre de l'humain que de l'organisationnel, en fait. Je sais pas si c'est très clair.
Si, c'est très clair. Et j'enchaîne avec un livre que tu nous conseillerais à la lecture.
Bah, du coup, je vais revenir sur le...
Sur Sean.
D'accord, ouais. Sean Accord, comment devenir un optimiste contagieux. Qui est un titre pas exceptionnel en français, mais...
C'est vrai, c'est bizarre cette traduction.
Ouais.
C'est son livre, The Happiness Advantage.
Exactement, The Happiness Advantage, qui est hyper pratico-pratique, avec des choses très concrètes à mettre en place, et qui est vraiment une vision différente de la vie. Quoi. Moi, j'étais une sorte de mélancolique avant. Je ne suis pas une optimiste née, hein. Ça ne fait pas partie de mes forces et de mes talents. Ce livre m'a vraiment aidée à travailler là-dessus. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidée dans toutes les étapes de ma vie.
Je feuilletais le dernier. Alors attends, c'était lequel ? Je ne sais plus lequel je feuilletais. Ouais, je crois que je feuilletais peut-être Big Potential. Et aussi, il parlait de ce qui fait qu'une équipe réussit. Très intéressant. D'ailleurs, son TED à lui est très drôle avec sa petite sœur qui tombe du lit.
Ah oui, je vois très bien.
Et lui dit que c'est une licorne, là.
C'est, ouais, c'est ça.
Il est très doué en communication orale. Et c'était l'assistant de Tal Ben-Shahar.
Exactement.
Parce qu'il y a très très longtemps, j'ai suivi les cours de Tal Ben-Shahar à Harvard.
Ah, la chance.
Et en effet, c'est là...
Non.
Tu peux les trouver si tu te débrouilles bien. En fait, tous ces cours à Harvard étaient filmés. Et donc, il y a des heures et des heures et des heures de cours. Et c'est passionnant.
Ouais.
Passionnant. Et Sean était... c'est là que j'ai découvert Sean à cette époque.
Exactement. OK.
Donc oui, c'est un gars super. J'aime beaucoup la façon dont il transmet les choses.
Oui, très décomplexé, c'est très accessible et très intelligent en même temps.
Ouais. Et on va finir avec une citation.
Bah, du coup, j'ai gardé la citation de Robert Waldinger de l'étude d'Harvard qui dit qu'une belle vie est construite avec de belles relations. Je suis tellement convaincue de ça.
Où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement? Je sais que tu as un site internet.
Ouais. Ah bah, sur mon site, joulacomwilliam.com. Là, on peut me contacter. Sur LinkedIn, évidemment, je suis présente aussi, Charlotte Jean Monod.
T'es sur Twitter.
Au Twitter, je suis pas dingue de Twitter. J'ai du mal à m'approprier cet outil, mais je suis sur Insta et Facebook.
Wow.
Okay. Les réseaux sociaux, tu vois, c'est une grande originalité.
Merci beaucoup, et pour vraiment vraiment clôturer cette rencontre avec toi, je sors ma baguette magique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir là dans les années qui viennent?
Bah, je suis toujours dans cette quête d'une vie qui me ressemble, tu vois, d'un équilibre professionnel et personnel épanouissant, une vie où...
Ah bah attends, excuse-moi, je t'interromps, mais là, t'as dit que tu étais enceinte. Hein.
Ouais.
Bon, moi, elle oublie. Même ma baguette magique ne peut rien faire pour toi, je suis désolée.
Je vais quand même y travailler, je sais pas.
C'est ton premier enfant ?
Oui, c'est mon premier.
Ah ouais.
C'est la grande aventure.
C'est la fille qui parle comme si elle en avait 15. Zéro.
En tout cas, ce que tu peux me souhaiter déjà, c'est un bébé en bonne santé et un accouchement sous hypnose réussi. Et puis ensuite, professionnellement, continuer à garder cet équilibre, apprendre des choses, créer des choses, m'inspirer des autres, inspirer les autres. Voilà, c'est ça qui me plairait.
Eh ben, c'est un beau programme en tout cas. Bah, je te le souhaite en tout cas, et ma baguette magique va faire ce qu'elle peut pour toi. Et puis je te souhaite beaucoup de réussite et bienvenue, ce nouveau petit être humain.
Je te remercie aussi beaucoup pour ce temps et cette curiosité, et merci pour ce temps de parole. Voilà.
Il est bientôt minuit. Normalement, je publie le mercredi, j'ai un peu de retard. Donc dans quelques minutes, on va passer à jeudi 31 mai. Ça va être le dernier podcast, en tout cas dernier podcast pour ce que j'appellerais une saison. Ça a été très très riche cette année, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait aussi beaucoup de podcasts avec des gens que je connaissais depuis des années, qui ont soit sorti un bouquin, soit avaient une actualité qui faisait que, eh ben, il était temps qu'on discute et partage cette discussion. J'ai également eu beaucoup d'échanges avec certains d'entre vous qui écoutent le podcast, ça a été une année riche en rencontres. Bien que je vive toujours dans ma petite ville de Port-Louis en Bretagne, d'ailleurs je fais un petit coucou à Marthe qui écoute, et ça la fait sourire quand je parle de Port-Louis puisqu'elle habite à une rue de chez moi. Oui, un endroit merveilleux, une vie merveilleuse, et ce podcast fait partie de cette alchimie qui fait que, eh ben, il est bon d'être vivant, de partager, d'être en relation, même quand ce n'est que via Skype. Je trouve que c'est les avantages de l'époque qu'on vit. La technologie peut nous amener vraiment des... C'est comme un multiplicateur de possibilités, d'échanges. Donc voilà, j'arrête pour la saison, non par manque d'intérêt, non par manque de possibilités d'interview, parce qu'il y a encore tellement de personnes à rencontrer, de sujets à explorer. Mais tout simplement, je fais une pause qui va être assez longue, qui va durer plusieurs mois, parce que j'ai un mois de juin très 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 chargé en travail, on va dire. Un travail que j'adore, que je n'appelle même pas travail. Donc j'ai là développé et poussé le talentoscope, donc qui est ce jeu que je fais avec des groupes d'en moyenne 150 personnes en séminaire d'entreprise. Et là, j'ai poussé le modèle plus loin. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de ce mois et d'avoir, je vais avoir quelques centaines, donc là, je crois 300, 400, 500, enfin, loin de 600 personnes ce mois-ci. Donc, Je me réjouis dont la semaine prochaine, une turbine à l'étranger en anglais avec une équipe multiculturelle formidable. Donc je vais me consacrer à ça vraiment et puis ensuite ce sera les vacances et puis ensuite il faudra que je reprenne contact ici et là pour relancer les interviews. Donc je sais pas exactement quand je reprendrai, mais c'est potentiellement sûrement vers la mi-septembre. Voilà. En attendant, il y a tout plein d'interviews dans lesquelles vous pouvez aller piocher. Il y a une soixantaine d'interviews maintenant en podcast. J'ai plus de 150 interviews sur YouTube. Donc c'est le même blog, c'est Moodstep. Donc si vous tapez Moodstep, M-O-O-D-S-T-E-P dans YouTube, bon, ça commence à dater. Donc on évolue. Hein. Moi, maintenant, je suis pro podcast. Je vous dis merci à tous pour votre écoute, merci à tous pour tous ces partages et je vous souhaite un excellent été. On se retrouve dans quelques minutes. Au revoir.